Saint Hildegarde de Bingen, mystique et visionnaire du XIe siècle, voici la première partie de la conférence de Patrice Bongrand qui nous présente la vie d'Hildegarde et les bonnes recettes pour le plaisir du palais et la joie de l'esprit. Intervention enregistrée à l'abbaye de Belloc le 5 juillet 2008. Voici donc la première partie de l'intervention de Patrice Bongrand.
Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Patrice Bongrand. J'étais un ami intime à Daniel Morin. Nous avons travaillé ensemble sur les écrits d'Hildegarde à partir de 89 à peu près. Et ce qui nous a passionné tout de suite chez Hildegarde à l'époque, c'est le fait que souvent, nous, en tant que nouveaux convertis à l'époque, on avait souvent une vision qui nous était donnée de l'individu avec un corps qui était plus ou moins l'ennemi du cheminement spirituel. Or, Hildegarde présente une vision assez holistique de l'individu et une vision très médiévale. Et il faut savoir que le Moyen-Âge a ça de fantastique. C'est que c'était un âge de lumière. Donc tout ce qu'on a appris à l'école à propos du Moyen-Âge, on peut le mettre dans un petit paquet et le mettre à la poubelle. Ça, c'est Régine Pernoud elle-même qui nous le dit. On parle souvent quelque chose d'ancien, de vieux. On dit c'est moyenâgeux, quelque chose d'un peu barbare. Or, si on regarde de façon très concrète sur le patrimoine qui nous est resté, entre autres nos églises, elles sont encore debout, n'est-ce pas? Donc si elles sont debout, ça veut dire que les hommes du Moyen-Âge avaient une connaissance forte des lois de la nature et des mécanismes de celles-ci, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Certes, ce n'était pas une connaissance à la mode moderne, c'est-à-dire avec une conscience principalement cérébrale et mentalisée, on va dire plutôt intellectuelle. C'était plus une expérience intuitive à l'époque. Et pour ne prendre que l'église, la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans les charpentes, qui ont quand même plus de 1000 ans, on ne rentre pas un clou. Pas un clou. Le clou se tord. Donc c'est dire les connaissances qu'avaient ces gens de comment il fallait travailler. Ce n'était pas le cas après tous les bâtiments qui ont été construits dans les années 70, qu'on est en train de tout redémonter, parce qu'ils n'étaient pas à dimension humaine. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, j'ai commencé à travailler sur Hildegarde avec Daniel Morin à l'époque. C'était un ami intime. Nous venions de pratiquer un peu, d'avoir un cheminement assez proche. Bien sûr, je vais faire juste une petite parenthèse, il y a des choses pour lesquelles, des prises de décision qu'il a eues de sa part, pour lesquelles je n'étais pas à 100% d'accord. Moi, je me suis engagé dans l'Église, je suis toujours très engagé dans ma foi de chrétien, je suis pratiquant, mais je suis avant tout un pratiquant dans la relation au Christ. C'est-à-dire que c'est le Christ qui m'a amené l'Église, et c'est lui qui me tient encore dans l'Église. Donc c'est l'amour du Christ qui me fait faire ce cheminement. J'ai arrêté de travailler avec les Jardins d'Hildegarde en 1999. Nous allons y revenir. Depuis ce temps-là, je me suis consacré à ce pourquoi je crois le bon Dieu m'a créé, c'est-à-dire la partie artistique. Je suis donc céramiste d'art maintenant. Et c'est en venant ici, dans cette communauté, qu'en discutant avec le frère Jean-François, qu'on est venu en discuter et qui m'a proposé de faire cette conférence. Donc c'est un grand plaisir de reprendre contact avec cette chère Sainte Hildegarde. Cette icône que vous avez ici a été faite selon mes désirs par un des frères de la communauté Notre-Dame d'Espérance. Donc, en 1990-91, j'ai démarré une entreprise à partir de rien. J'étais au chômage. J'avais une petite cuisine qui faisait 3 mètres sur 2 et je devais avoir à l'époque 10 000 francs d'avance. Donc j'ai démarré l'entreprise qui s'appelait Les Jardins d'Hildegarde. Cette entreprise, je l'ai créée à partir de ma passion des écrits d'Hildegarde. Parce qu'il faut savoir que quand on a commencé à travailler sur Hildegarde, il y avait des livres principalement des médecins allemands qui ont fait passer les écrits d'Hildegarde à travers leur propre filtre. Or, mon travail, c'était surtout de passer à travers les textes directs d'Hildegarde. Donc mes références dans le travail sur ce que Hildegarde conseille au niveau des santé, ce sont ces deux livres qui sont les livres des subtilités des créatures divines où elle décrit les différents règnes minéral, végétal et animal, dans lequel elle va définir les vertus ou les non-vertus des choses en question. Plus, évidemment, les livres spirituels. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans avec cette entreprise. En fait, on a fait une recherche environ 15 années sur Hildegarde. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas comprendre Hildegarde sans comprendre l'esprit des gens du Moyen-Âge, qui était avant tout un esprit qui était lié au cœur. On voit ces fantastiques églises, principalement les églises romanes, parce que Hildegarde est quand même née en 1098 à Bernstein, en Allemagne. C'était une très grande mystique. C'est une mystique rhénane, la fameuse mystique rhénane dont fait partie des très 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 grands inspirateurs pour notre foi présente. Il ne faut pas oublier que ces mystiques, même s'ils viennent du Moyen-Âge, ils ont toujours beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire. Et Hildegarde, elle était dès très petite, avait des dons absolument incroyables. La petite histoire, c'est qu'elle a réussi à décrire le veau à l'intérieur du ventre d'une vache. Apparemment, elle conversait régulièrement avec l'enfant Jésus depuis tout petite. Donc, c'était vraiment un être à part. Et là où la chose la plus merveilleuse, c'est que malgré ses dons extraordinaires, elle a constamment eu des maux physiques et spirituel, puisque les uns vont pas sans les autres, constamment, constamment, constamment. Surtout si elle n'obéissait pas aux voix du ciel qui lui demandait telle ou telle chose. Et le moment où elle obéissait, paf, tout se calmait. Donc, c'est pour se dire que c'est assez difficile de parler d'hygiène alimentaire, des conseils d'hygiène alimentaire d'Hildegarde, des remèdes d'Hildegarde, et en même temps de parler de la souffrance chrétienne, parce que là on parle du cœur de la foi chrétienne, étant donné que le Christ lui-même a souffert sur la croix, et nous a donc donné des directions de vie, des façons de prendre les choses dans la vie. Il est notre maître à tous, et il a été le maître d'Hildegarde de Bingen, évidemment. Donc certainement, Hildegarde de Bingen a été, et je m'avance, mais je ne pense pas me tromper de beaucoup, la plus grande mystique bénédictine qui a pu être depuis le début de la congrégation de bénédictine. Elle avait une telle importance à son époque que même les grands politiques comme Barberousse avaient peur d'elle. C'était une prophète. Quand il y avait besoin de savoir ce que Dieu voulait pour les instances, il venait consulter Hildegarde de Bingen. Et pourtant, elle se définissait comme une pauvre petite femme, souffrante et pleine de misère. C'est nous montrer aussi son humilité. C'était un être, par contre, qui, quand elle avait à parler aux instances, avait son verbe était de feu. C'était une épée tranchante. C'est pour ça qu'il... Tous les politiques de l'époque frémissaient parce qu'ils savaient que s'ils n'avaient pas bien agi, bien sûr, Barberousse, on sait bien, c'était un homme assez terrible, et ils avaient vraiment la crainte de cette parole tranchante parce que pour eux, elle venait directement de Dieu. À 38 ans, elle est devenue abbesse bénédictine, ce qui était très jeune, et elle reçoit le Civias, qui est le grand texte spirituel d'Hildegarde. Vous voyez, on ne parle pas encore de diététique, qu'on peut traduire par « connais les voies du Seigneur ». En fait, c'est « connais les voies », Civias. Où c'est Dieu même, Dieu le Père, qui s'exprime et qui demande aux hommes et qui donne des indications pour la vie spirituelle, quoi. Et toutes ces visions ont été traduites plus ou moins à un moment donné sous la forme d'icônes ou de dessins, parce qu'elle décrit pas seulement des visions du ciel, mais elle décrit beaucoup ce qui est très à l'image de ce qu'est le Moyen-Âge. Elle décrit beaucoup l'homme dans sa dimension universelle et l'homme comme étant le centre du cosmos, à l'image de Dieu. Et pour ce faire, je vous présenterai à plusieurs reprises ce dessin que j'ai repris d'une des visions, qui montre bien un élément important, la Terre, avec les différentes saisons et les différents éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, qui sont en jeu. Et c'est assez fantastique parce que c'est assez unique dans la foi chrétienne, où on a une vision qui est très, on va dire, j'ai utilisé un terme très moderne, et très holistique, c'est-à-dire qui englobe le tout. C'est-à-dire que l'homme n'est pas indépendant des lois de la nature. Il y a les lois divines, mais il y a aussi les lois de la nature. Et ces lois de la nature ont été édictées par Dieu le Père lui-même. Donc, elle était contemporaine à Saint Bernard de Clairvaux, qui était un grand saint aussi à son époque. Et d'ailleurs, elle l'a apparemment pas rencontré, mais elle a eu des écrits, des lettres avec lui. Et entre autres, Saint Bernard lui a dit « Écris ce qu'il t'est dit, écris tes visions ». C'est Saint Bernard qui lui a dit d'écrire ses visions. Cette vision holistique, cette vision de l'homme au milieu des éléments naturels faits à l'image de Dieu est très intéressante parce qu'elle nous présente, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, et on sait que pour nous, Dieu est trinitaire, c'est la Sainte Trinité, on peut dire... Je vous ferai les dessins tout à l'heure, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on peut le symboliser comme un triangle, comme ça, d'accord? Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes donc, nous aussi, entre guillemets, trinitaires. Et en quoi sommes-nous trinitaires? Vous pouvez me le dire? Alors, on sait que nous avons une âme, d'accord? Corps, âme, esprit, voilà. Voilà. Oui, mais nous sommes corps, âme, esprit, et c'est par la part de l'esprit... que l'Esprit Saint nous souffle, en nous, nous inspire, et notre âme est, elle, en direct contact avec Dieu, puisque, et c'est là où je fais un rapprochement entre Thérèse d'Avila et Sainte Hildegarde de Bingen, elle nous présente la relation à Dieu comme étant non pas une relation de nous-mêmes et de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, mais comme étant une relation de nous-mêmes à l'intérieur de ce qui est le plus profond à nous-mêmes, c'est-à-dire Dieu lui-même. Thérèse d'Avila a ceci de fantastique, c'est pour moi ma grande maître spirituelle avec Saint Jean de la Croix, qu'elle nous présente dans son château de l'âme, qu'elle nous présente le cœur du château de l'âme, elle présente le château de l'âme comme sept cercles concentriques, on peut dire, vous coupez un oignon en travers, et vous avez des couches successives. Et au centre du château de l'âme, c'est la résidence du roi des rois, qui est Dieu, la présence de Dieu et du Christ. Et donc, cela veut dire que pour vraiment vivre de sa dimension spirituelle, c'est le plongeon en soi. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que quand on parle de termes assez mystiques ou spirituels, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, à mon avis, on va parler de la cime de l'âme, de la pointe aiguë de l'âme et des tréfonds de l'âme. Donc là, on est en dehors des lois de la physique grossière, on va dire. Puisque apparemment, le tréfonds, la cime de l'âme et les tréfonds, ça paraît être en opposé. Pourtant, c'est la même chose. Parce que là, nous sommes dans une dimension hors de toute dimension, qui est l'intérieur, le cœur même de notre cœur, qui est la présence de Dieu lui-même. Cette dimension-là est fondamentale dans la vision d'Hildegarde. Elle est fondamentale. Tous les conseils d'hygiène alimentaire ne sont que, on va dire, des petits morceaux de paille qui nous sont donnés comme des cadeaux supplémentaires. Mais si on ne se focalise que sur cet aspect-là, en oubliant cet élément essentiel qu'est la présence de Dieu dans notre cœur, alors on perd 99% du message d'Hildegarde de Bingen. Et pour Hildegarde, ce qui compte, c'est la présence de l'Esprit Saint, et là on est très proche de l'orthodoxie, la présence de l'Esprit Saint, et le signe de la présence de l'Esprit Saint, c'est la joie. Un saint triste est un triste saint, on dit traditionnellement. Et donc, même si nous vivons des épreuves, nous devons être dans la joie, parce que peut-être ces épreuves ont quelque chose à voir par rapport à notre vie spirituelle, on va en parler tout à l'heure. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus des conseils d'hygiène alimentaire, d'Hildegarde, que des petits remèdes pour résoudre ces petits problèmes. Parce que après plus de 20 ans de travail avec Hildegarde, parce que j'applique les conseils d'Hildegarde régulièrement au quotidien, sur mon corps, et je l'ai appliqué sur plusieurs milliers de personnes. J'avais quand même 3000 clients au sein de mon activité professionnelle. L'activité, je l'ai laissée à d'autres personnes qui continuent. On s'est rendu compte que finalement, le cœur des conseils d'Hildegarde, c'était avant tout la spiritualité d'Hildegarde, ce qu'elle enseigne dans la relation à Dieu. Et donc que toutes ces aides sur l'hygiène alimentaire étaient importantes, certes, mais c'était le cœur qui comptait. Et donc cette grande prophète nous donne une vision de l'hygiène de vie en relation directe avec l'hygiène spirituelle. Si on a une vision holistique de l'individu, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas tout à fait exact. On va dire que l'hygiène spirituelle est beaucoup plus importante que l'hygiène alimentaire. Même, on pourrait se passer de l'hygiène alimentaire si on est un vrai spirituel, puisqu'on est dans les mains de Dieu. Vous voyez ? Simplement, ce cadeau qui nous a été donné des conseils d'hygiène alimentaire, ce n'est pas à jeter non plus. Il ne faut pas être extrémiste dans l'autre sens. Parce que si ça peut nous être utile, parce qu'avant tout, le bon Dieu, c'est certain, parce qu'Hildegarde l'a dit à plusieurs reprises, ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Même si ce n'est pas un bonheur absolu dans ce monde, comme l'a dit la Sainte Vierge à la petite Bernadette à Lourdes, hein, c'est au moins de trouver un petit peu plus de paix et donc de confort, entre guillemets, puisque c'est un terme très moderne, le confort, de confort physique pour notre âme, qui est à l'intérieur de ce corps. Donc, l'élément essentiel à savoir, en ce qui concerne les conseils d'hygiène alimentaire d'Hildegarde, c'est de savoir que c'était une bénédictine. Donc, elle vivait selon les règles de Saint Benoît. Et que la règle des règles de Saint Benoît, la base de... Enfin, pour moi, c'est aussi ce que dit Hildegarde, c'est un élément essentiel qui ferait un grand, grand bien à notre société moderne et qui est certainement une grande solution pour nos sociétés modernes. Mais là, peut-être, on dirait des choses qui pourraient paraître être un grand mot, ou voire un gros mot pour beaucoup de contemporains de notre société moderne, c'est le juste milieu et la modération en toute chose. Voilà la loi essentielle. Le juste milieu, c'est la première loi d'hygiène alimentaire, je pourrais même dire d'hygiène spirituelle, le juste milieu. C'est la règle de Saint Benoît qui nous dit ça. Modération en toute chose. Et si la modération et la sobriété étaient une loi dans notre société, il y aurait beaucoup moins de gaspillage, donc beaucoup moins de pollution. Donc on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes de couches d'ozone et de changement climatique que nous vivons actuellement, n'est-ce pas? Et nous allons y venir, parce qu'Hildegarde nous explique quelque chose de très 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 fort. C'est comment est arrivée tout d'un coup la maladie dans le monde. Comment est arrivée la maladie? En fait, elle situe le nœud de la maladie dans le péché originel. Alors attention, quand je parle de péché originel, je ne parle pas du péché culpabilisateur du 19e siècle et janséniste, ça n'a rien à voir. Hein. Le péché, c'est simplement tout ce qui sépare l'homme de sa relation à Dieu. C'est tout ce qui n'est pas Dieu dans notre vie. Hein. C'est ça le péché, ça veut dire... En fait, au paradis, Adam et Ève, même si c'est très probablement une image, ils vivaient un bonheur constant et présent parce qu'ils étaient dans une relation constante et présente dans la relation à Dieu et dans la relation à la nature. Parce que la nature, n'oublions pas, c'est en quelque sorte la plus belle création de l'œuvre de Dieu. Moi, en tant qu'artiste, je le sais, puisque toute ma quête, c'est d'essayer de retrouver cette énergie dans la matière que Dieu a mis dans la nature. Donc, Ce péché originel a créé ce qu'elle appelle la bile noire. Ça, c'est un élément. Et cette bile noire a envahi la création entière. Et en quelque sorte, les lois du paradis originel ont été transmutées en nouvelles lois. C'est-à-dire que dans le paradis originel, par exemple, c'est ce que dit Hildegarde, il n'y avait pas d'animaux carnassiers. Et a priori, ils vivaient tous d'une espèce de, on va dire entre guillemets, ambroisine divine, dont elle parlera plus tard, qui peut ressembler à une sorte de boisson spirituelle, qui n'était pas quelque chose de concret, et qui était simplement la présence de Dieu vivant au quotidien, quoi. Et donc cette bile noire, c'est elle qui est la responsable dans le corps humain. Quand il y a un excès de bile noire, il y a maladie. Donc, et cette bile noire, bien sûr, c'est une médecine très proche des médecines anciennes, les médecines hippocratiques, d'Hippocras, hein, le fameux serment d'Hippocras dont maintenant on tronque pas mal d'éléments, mais bon, je ne vais pas m'approfondir là-dessus. D'Hippocrate, excusez-moi, je me trompe, Hippocrate. Et donc, c'est une médecine des humeurs, c'est-à-dire que s'il y a un excès de bile noire à telle zone ou dans tel organe dans le corps humain, il y a les humeurs qui deviennent bileuses, et à ce moment-là, l'organe est malade. Donc si on travaille sur l'élément essentiel qui est le juste milieu, ça veut dire que si on mange correctement, si on ne fait pas d'excès de nourriture, si on ne fait pas d'excès de colère, si on ne fait pas d'excès de tout ce qui nous est guidé, eh bien, on favorise beaucoup moins la maladie. Donc, on favorise moins l'excédent de bile noire, donc moins de maladies. Donc, on pourrait dire en ceci que ce conseil-là est un conseil d'hygiène alimentaire préventif. Préventif. Donc, et parmi ces éléments d'hygiène alimentaire préventif, Hildegarde va nous donner un certain nombre d'éléments qui vont aller dans ce sens-là, dont le jeûne, qui est un jeûne très sobre, qui n'est pas un jeûne absolu. Avant cela, je voudrais vous parler d'un élément qui est très très important, dont Hildegarde parle à plusieurs reprises dans le Civias et aussi qu'on retrouve aussi fréquemment dans les Physicas et qu'on retrouve aussi comme enseignement de base quand on lit sa vie. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement de lire le livre de Régine Pernoud. J'ai eu la grande chance de rencontrer Régine Pernoud, c'était en 97, avant qu'elle ne décède. Elle faisait une conférence à Paris, on a discuté, j'étais encore dans mes activités des produits d'Hildegarde. Et c'est vrai qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de choses, Régine Pernoud, pour réactualiser toutes ces erreurs qui ont été dites sur le passé, sur le Moyen-Âge. Donc, ce dont elle parle, ce sont les maladies spirituelles. Le problème d'Hildegarde, des écrits d'Hildegarde, c'est qu'on pourrait dire qu'ils sont en quelque sorte donnés en vrac. Et que ça a besoin d'être un peu structuré par rapport à notre vie d'occidentaux. Ça a été tout mon travail pendant des années avec Daniel Morin, mais moi j'ai dû faire le travail en direct puisque je manipulais les produits et je voulais que ces produits, ça pleinement, facilement utilisable par les gens et que les personnes puissent en quelque sorte s'approprier leur relation à leur propre santé par le biais des produits. C'est pour ce faire d'ailleurs que dès que j'ai voulu démarrer cette activité, j'ai voulu que ces produits soient faits dans la prière. Et donc à l'époque, je travaillais avec les religieux, je faisais travailler 4 monastères, en fait 4 prieurés de la congrégation Notre-Dame d'Espérance, qui sont des bénédictins handicapés. Ça a été une grosse... j'ai dû lâcher tout ça avec beaucoup de souffrance, mais en même temps, c'était une obligation à l'époque. Et la plus grosse difficulté, c'était effectivement de lâcher cette relation que j'avais avec ses frères, qui était vraiment une relation de très grande fraternité et d'amitié spirituelle, quoi. Mais la vie en est ainsi, le Seigneur nous mène par des voies que nous n'avons pas toujours désirées. Et souvent, c'est ce qui est de meilleur pour nous, quand on le voit après coup. Alors, ces maladies spirituelles, on pourrait dire qu'il y a des maladies spirituelles négatives et des maladies spirituelles positives, même si en fait, elles sont toutes positives en finalité. Quand on veut dire de maladie spirituelle négative, il y a un élément qui va peut-être mettre un petit coup de poing sur la table un peu fort par rapport à notre temps moderne. C'est que pour elle, la pire des maladies qui est le signe d'un excès de bile noire en outrance, c'est l'athéisme. Pour elle, l'athéisme, c'est l'excès de bile noire, quoi. Et donc ça, c'est effectivement bon, le résultat, parce que celui qui manipule la bile noire, non, je ne dirai pas son... c'est la conséquence de cet excès de bile noire. Et donc, pour elle, certaines maladies physiques et psychiques sont dues à ces maladies spirituelles négatives dont l'athéisme font partie. Je n'en parlerai pas plus que ça, parce que ça risque de faire développer le débat vers des éléments qu'on ne désire pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Hildegarde, elle définit le système immunitaire, même si elle le définit avec des images très médiévales, sous forme de, d'animal ou de petits insectes ou de bestioles très imagées. Elle définit, en fait, elle met directement le système immunitaire en relation avec les milices célestes que sont Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Donc, le système immunitaire, on pourrait dire, en quelque sorte, que c'est la milice céleste du corps. Et si accès de bile noire, il y a chute du système immunitaire, donc vous en déduirez par vous-même ce que ça veut dire. Et donc, si le système immunitaire chute, automatiquement, l'excès de bile noire envahit le corps et tout un tas de maladies, on va appeler une maladie spirituelle négative, arrive. Maintenant, on va pouvoir parler, évidemment, ces maladies augmentent ou n'augmentent pas, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas nous qui la gérons. S'il n'y a pas de vie spirituelle, ça aggrave fortement le problème. Ça ne veut pas dire pour ça que s'il y a une vie spirituelle, les choses vont se résoudre. Ça veut dire qu'il va y avoir une... Je vais utiliser un terme un petit peu bizarre, une transmutation alchimique de la souffrance, de quelque chose d'apparemment négatif en quelque chose de positif. C'est ce qu'on appelle l'abandon à la divine providence. Parce que cet élément-là, j'en sais quelque chose parce que je passe depuis 2 ans dans des problèmes de santé assez pénibles. Dieu offre aux âmes spirituelles pour leur avancement spirituel, une purification qui leur permet de lâcher prise et de s'abandonner à la volonté de Dieu. Si on s'accroche tout le temps à notre propre petite volonté, comment on peut laisser faire l'Esprit-Saint agir? Comment on peut laisser l'Esprit-Saint agir dans notre vie? De même, lorsqu'il arrive une épreuve, il faut bien se souvenir du fait que épreuve, c'est la même racine que éprouvette. Éprouver, c'est-à-dire purification, liaison. On éprouve l'or, c'est-à-dire qu'on purifie l'or dans une éprouvette. Hein? Et donc, Hildegarde insiste beaucoup pour ça, et toute sa vie était le signe de ça, je vous l'ai dit tout à fait au début de la conférence. Elle a eu beaucoup, beaucoup de misère physique, et est quand même vécue très vieille, plus de 90 ans. Donc, seulement elle était totalement appuyée sur la divine providence, le lâcher prise. Je parle du lâcher prise qui est un terme plus, on va dire, hindouiste-bouddhiste, mais en fait, dans les grandes traditions, on retrouve les mêmes indications qui nous sont données. Hein? On est, nous autres hommes du XXe siècle, on veut pouvoir tout parfaitement bien gérer. On veut cadrer bien tout d'aplomb. Seulement, si on s'appuie vraiment sur la volonté de Dieu, on doit être comme ces lys des champs ou ces oiseaux qui sont dans les prés. Et alors, c'est la parole du Seigneur. Hein? Pourquoi vous vous tracassez de votre futur, de ce que vous allez vous vêtir, vous manger? Dieu le Père qui est aux cieux, il sait, puisqu'il vous aime infiniment, il sait très bien ce dont vous avez besoin. Ça n'empêche qu'il faut avoir contact avec la réalité. Parce que ça, c'est un autre élément qui est très, très important dans la vision d'Hildegarde. C'est une vision de l'homme debout. Debout. C'est ce qui fait la spécificité et qui fait que l'homme est l'homme par rapport à l'animal. L'homme est debout. Et mettons le parallèle entre l'Église romane et l'homme, vous avez exactement la même chose. L'Église romane est très ancrée dans la terre, dans les énergies de la terre, la tête vers le ciel. On retrouve ça aussi un petit peu dans les arts japonais, parce que je travaille un petit peu dans cette direction-là, avec l'ikebana, les arts du bouquet floral, où il y a vraiment cette notion de l'homme, de la verticalité de l'homme. Et donc, on est là pour être incarné, on n'est pas là non plus pour planer et faire comme un peu nous proposent certaines visions un peu nouvel âge, New Age, qui est, à mon avis, dangereuse. Non pas que ces gens-là se trompent à 100%, c'est simplement qu'il faut ancrer ces bases dans nos racines, et nos racines sont chrétiennes. Donc la relation à la nature est fondamentale. Je donne un exemple, un des grands remèdes pour les intestins et les problèmes de jambes lourdes pour Hildegarde, c'est de marcher pieds nus le matin dans la rosée. Alors, moi j'ai beaucoup étudié les médecines énergétiques chinoises, l'Ayurveda auparavant et même depuis, c'est 100% pareil. On dit la même chose, il faut se mettre en contact avec les énergies du sol. Il ne s'agit pas là de choses complètement éthérées, c'est des réalités concrètes, on le sait bien. On a besoin de la relation à la nature. Hildegarde en parle très très souvent. La preuve en est, c'est dans tous les monastères de l'époque, il y avait les jardins des simples. C'était dans les monastères qu'on soignait, et gratuitement. À Clairvaux, vous aviez tout ce qu'il fallait aussi pour soigner les gens. Tous les bons remèdes de bonne femme. Savoir que remède de bonne femme, c'est basé sur le terme latin bona fama, c'est-à-dire de bonne fortune, c'est-à-dire qui a fait ses preuves. C'est pas péjoratif. Ce sont des remèdes qui ont été créés par les religieux. Donc il y a une vraie relation à la corporalité intégrée dans la relation à la terre, mais avec les yeux au ciel, la tête au ciel, dans sa relation à Dieu. On dit souvent pour un esprit saint dans un corps saint. Ça, c'est une vision très hildegardienne. Un esprit saint dans un corps saint. Il y a quelques petites anecdotes sur Hildegarde, par exemple, parce qu'il paraît qu'au Moyen-Âge, il ne pouvait aller avoir l'Eucharistie qu'une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, je ne sais plus trop. Hildegarde, elle habillait ses sœurs avec des couronnes de fleurs, elles étaient embellies et tout, et puis l'évêque était plus ou moins offusqué à l'époque. Il lui dit, mais quand on va voir le roi des rois, le minimum, c'est qu'on se fasse belle. C'est pour vous dire la poésie de cette femme. Et l'évêque ne pouvait rien dire, parce qu'elle avait une stature tellement importante à son époque. Et il faut savoir qu'Hildegarde, ça a été quand même la plus grande compositrice de musique aussi, à composer un petit peu moins de 100 parties de musique ou... On ne peut pas dire de concerto ou de choses comme ça, parce que ça n'existait pas au Moyen-Âge. Mais il y avait une musique sacrée, qui est très importante. On trouve beaucoup de disques, d'ailleurs, sur la partie. Actuellement, il y a plusieurs groupes qui ont développé ça. Donc, l'un des éléments importants pour Hildegarde, c'est le jeûne. Parce que le jeûne participe à une purification du corps, ainsi qu'une purification de l'esprit. Parce que le fait de manquer, apparemment, on va voir pourquoi, deux choses nous ramènent à l'essentiel. Maintenant, ce n'est pas le jeûne absolu. Parce qu'Hildegarde ne parlait pas de... Il y a un de ses contemporains, enfin presque contemporain, parce qu'il est venu un petit peu plus tard, on en discutait avec le frère tout à l'heure, c'est saint François d'Assise pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de... J'ai beaucoup d'amour pour saint François, parce que lui aussi, c'est un saint de la terre, qui aimait les animaux, qui parlait aux animaux. Et j'aime beaucoup cette vision de la relation à la nature du chrétien. Je crois que le chrétien, ça devrait être le meilleur écologiste. Moi, je suis convaincu de ça. Parce que le minimum, c'est qu'on respecte la création de Dieu. C'est le plus gros, les plus beaux spectacles qui peuvent nous être donnés, c'est la nature. Et saint François, il s'est beaucoup fait de sacrifices. Il a fait beaucoup souffrir son corps. Et à la fin de sa vie, il a dit, « Mes frères, ne faites pas comme j'ai fait. Soyez doux avec le frère l'âme. Frère l'âne, c'est le corps. » Heureusement, c'est un grand mystique. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à son corps. Et donc, ce jeûne, ce n'est pas un vrai jeûne à 100%. Savoir que rien n'est dit de façon assez clairement, aussi clairement que ce qu'on peut trouver sur certains ouvrages allemands. c'est avant tout sevrer son corps du surplus pendant un certain temps. Ça peut être des moments très courts, juste 2 jours, 3 jours. Et pour ce faire, les monodiètes au petit épeautre associées de certaines épices peuvent aider beaucoup. D'ailleurs, on peut mettre cette relation au jeûne avec les messages de la Vierge de Medjugorje, pour ceux qui connaissent. Il y a un élément très très important, oui, j'ai oublié de dire, qui est quand même très important, c'est ce tableau-là. Et c'est là où on a un lien très très fort avec les médecines tibétaines, chinoises, les médecines primitives, on va dire, indiennes. C'est que pour Hildegarde, quand elle décrit dans le Physica, les plantes, les animaux, elle les décrit toujours selon des éléments qui sont, cet élément, il est plus chaud, plus humide, plus sec. Donc il y a une notion de chaleur, de froid, de sec, d'humide, et une notion des éléments. Elle dit qu'en fait, ce sont les éléments qui ont construit la matière. Moi, en tant que céramiste, je le sais, puisque là, les arts céramiques sont les seuls qui manipulent les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, l'eau et le feu. C'est pour ça que je cuis au four à bois. C'est une petite parenthèse. Cette relation aux éléments est un élément très important. Ce que je veux dire, c'est que... elle décrit les choses comme ça. Si dans la nature, un des éléments est en déséquilibre à cause de la bile noire, cet élément est en trop grande quantité, alors à ce moment-là, il déséquilibre. Bon, supposons, prenons un exemple. Dans la nature, il y a un déséquilibre, il y a trop de feu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la sécheresse. Okay, c'est la canicule. On va connaître ça, on commence à le connaître, et on va le connaître certainement encore plus. S'il y a trop d'eau, c'est la pluie, c'est les excès, c'est les inondations. S'il y a trop d'air, c'est les tempêtes. S'il y a trop de terre, là c'est plus difficile, c'est les tremblements de terre. Bon, maintenant imaginons que notre corps soit une sorte de terre à elle-même, c'est ce que dit Hildegarde. Que nous soyons tellement, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, nous sommes nés de la terre, c'est à partir du souffle de Dieu, que de cette argile, manipulés dans les mains de Dieu, nous sommes devenus des êtres humains. C'est symbolique. C'est une image, oui, mais c'est une image qui n'est pas une image en relation avec une réalité apparemment concrète, puisqu'il y a de la... Vous voyez, mais qui est véritable, parce que nos os, c'est quand même minéral, vous voyez. Et c'est quand on prend un oligo-élément qui va être en résonance avec notre minéral qui va faire que ça va soigner. On le sait maintenant dans les médecines alternatives. Même les médecines modernes, on le sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc imaginons que notre corps soit aussi une sorte de terre et qu'il y ait un peu trop d'eau. Donc un certain nombre d'éléments de notre corps seront en déséquilibre, donc on est malade. C'est pareil pour le feu, c'est pareil pour l'air, c'est pareil pour la terre. Et ce qui est fantastique, c'est là où j'ai fait un très gros travail moi, pendant des années, c'est de faire ce lien avec les médecines tibétaines, qui, eux, définissent des constitutions humaines. Nous sommes tous différents, mais en quelque sorte, on pourrait dire qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus terre, un peu plus air, un peu plus eau. Pour dire, une personne assez trapue, assez massive, plutôt lente de comportement, plutôt calme, paisible, ce sera une personne qui vous révélera quel élément ? La terre. Donc vous voyez, vous avez compris. Une personne comme moi, par exemple, plutôt mince, un peu volubile, un peu geste rapide, c'est plutôt feu et air. Hein? Voilà. Et donc le travail que j'avais fait, c'était de reprendre un peu tous ces textes d'Hildegarde sur toutes ces différentes plantes et de pouvoir aller beaucoup plus justement dans les conseils d'hygiène alimentaire, parce que tous ces conseils d'hygiène alimentaire, on dirait que c'est du vrac. Maintenant, on y a un gros travail à faire dessus, pour pouvoir les associer mieux à certaines personnes. Par exemple, les jeûnes, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour jeûner. Les gens feu, par exemple, qui sont plutôt minces, ne sont pas faits pour faire des longs jeûnes, parce qu'ils n'ont pas de réserve. Donc ça, il faut le savoir, parce que c'est à nous de sentir après. Mais il y a des moyens de le tester. Donc ces 4 éléments qui sont dans la nature, on les retrouve dans notre corps. Et Hildegarde définit les plantes, il suffit d'ouvrir juste une page, par exemple, l'armoise, par exemple. L'armoise est tout à fait chaude et son suc est fort utile, vous voyez, chaude. Si on la fait cuire comme pour la manger comme légume, elle soigne les intestins malades et réchauffe un estomac froid. Donc, et là, on a pratiquement les mêmes propos dans les médecines chinoises. Donc, c'est intéressant d'être ouvert. C'est intéressant d'être ouvert parce que l'Esprit Saint, il souffle là où il veut. Hein. Dans ces médecines traditionnelles, ben, certainement, les gens ont cherché. Et puis, le bon Dieu, il ne peut pas abandonner ses enfants, hein, même s'ils ne sont pas catholiques, hein, même s'ils ne sont pas baptisés. Hein. Il faut. Oui, Vatican II nous a quand même aidés à cette ouverture-là. Hein. Il faut. Faut pas être sectaire, quoi. Maintenant, quand on est dans une voie, hein, ses racines, c'est très important. Nous sommes chrétiens. Donc, et là, Hildegarde nous éclaire de façon fantastique et nous réconcilie avec notre corps, on pourrait dire. Parce que saint Paul a quand même dit que le corps est le temple de l'esprit. Hein, je le rappelle, c'est quand même important.
Saint Hildegarde de Bingen, mystique et visionnaire du XIe siècle, vous venez de suivre la première partie de la conférence de Patrice Bongrand, enregistré à l'abbaye de Belloc le 5 juillet 2008. La seconde et dernière partie sera diffusée sur notre antenne la semaine prochaine.